Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Ondes Femmes, Radio Zone 93.8, et nous discutons autour du livre publié par Gabrielle Nunchen, Amour et Pouvoir, des hommes, des femmes et des valeurs, et surtout ce que les propositions, ce que nous raconte Gabrielle Nunchen a suscité pour nous en tant que femmes, et dans ce que nous aimerions continuer à voir exister, et surtout ce que nous aimerions peut-être voir exister, qui n'existe pas encore. Nous vous rappelons que si vous voulez participer à notre discussion, vous pouvez toujours nous téléphoner en direct au 50 40 51 41, 023 si vous appelez depuis Genève, 0033 depuis le reste de la Suisse. Oui, parce qu'on nous entend dans le reste de la Suisse. Alors voilà, jusqu'à maintenant, on a fait un petit tour d'horizon de ce qu'on évalue être la situation du moment, comme on le ressent par rapport à l'égalité votée il y a 10 ans, hein, et qui effectivement, en tout cas apparemment, ne convient pas trop ni aux unes ni aux autres, soit parce que c'est l'égalité que l'on nous a demandé d'être, égalité avec les hommes et d'être comme les hommes, égalité qui n'est pas réalisée sur beaucoup de points de vue très concrètement, surtout dans le monde du travail. Alors, moi j'aimerais bien qu'on s'embraye un petit peu maintenant très concrètement sur qu'est-ce que nous, on aimerait faire par rapport à cette situation, nous comme femmes, qu'est-ce qu'on a envie qui arrive, qui existe, et peut-être comment y arriver. Gabrielle Nunchen avance très fortement la notion de valeur féminine comme étant une façon d'intervenir différemment dans le monde d'aujourd'hui pour imposer, pour, elle ne dira pas le mot imposer parce que justement elle est contre les rapports de force agressifs, ça c'est certain, et que, mais disons comment proposer à la société une façon de voir, d'appréhender les choses qui est différente justement de celle des hommes. Alors vous toutes qui avez lu ce livre et par rapport à votre propre existence surtout, comment ça résonne pour vous la notion de valeur féminine et comment vous comprenez ça par rapport à la suite de ce que vous avez envie de voir apparaître comme lutte de femmes, si je puis dire?
Oui, parce qu'il faut préciser aussi que Gabrielle Nunchen ne veut plus s'attacher à un combat strictement ou à une lutte strictement féministe, mais elle a envie de s'attacher à toutes sortes de luttes, que ce soit les rapports Nord-Sud, que ce soit le combat pour la paix, que ce soit aussi le combat en faveur de la nature, d'un environnement plus équilibré, plus harmonieux, toutes choses qui d'ailleurs ne sont absolument pas incompatibles avec les luttes féministes. Mais en tout cas, elle, pour l'instant, c'est un combat auquel elle a renoncé.
Viviane ?
Oui, les valeurs féminines. C'est un terme que Gabrielle Nunchen utilise. Elle en cite quelques-unes, je crois, non ? La solidarité, l'attention à autrui, qu'est-ce qu'elle donne ?
Le partage,
la générosité. L'attachement à la nature.
Souvent, oui. Ce terme valeur féminine nous fait sauter parce qu'il a été beaucoup utilisé par une droite machiste, phallocrate, qui disait « mais les femmes, c'est l'éternel féminin », et ça évoque ça. Mais moi, disons, ça m'a évoqué autre chose, c'est un terme qui me fait réfléchir, et je le prendrais plutôt dans l'autre sens. Je dirais que le monde est divisé sexuellement, et ça, je crois que c'est une réalité qu'on vit. Qu'on a vécu, qu'on vit aujourd'hui, qu'on a toujours vécu, qu'il y a une division sexuelle du monde, du travail, qui fait qu'effectivement, les femmes et les hommes, ils occupent d'autres places, sont dans d'autres situations dans ce monde, et qu'on peut parler effectivement d'une culture de femmes et d'une culture d'hommes, presque. Qu'il y a des territoires d'hommes et de femmes, comme dans les villages primitifs où effectivement le territoire est vraiment divisé par des barrières, les femmes savent très bien là où elles ne peuvent pas aller. Maintenant, c'est plus flou, mais de fait, ces barrières existent, elles sont là. Il y a toujours une division sexuelle du monde. Et là-dedans, il y a une partie du monde qui est le monde masculin, la culture masculine qui est valorisée et celle féminine qui est dévalorisée. Et c'est dans ce sens-là, moi, que je parlerai de valeur, c'est de revaloriser ce que les femmes font. De ne pas dire les femmes ne travaillent pas, donc elles doivent aller travailler comme les hommes, mais de rendre compte du travail qu'elles font, de la valeur de ce travail. De ne pas dire les femmes ne font pas de la politique, elles devraient faire de la politique, mais de valoriser les la politique que font les femmes, et elles en font énormément. Par exemple, les femmes sont énormément dans toutes les associations, que ce soit des associations de parents, de quartiers, de défense de la nature, etc. Elles ne sont peut-être pas au Conseil fédéral, elles ne sont pas du tout au Conseil fédéral, mais elles font la vie politique, la vie civique, elle est complètement faite et menée en avant par des femmes. Alors reconnaissons cette force-là, cette valeur-là, et que c'est peut-être cette politique-là qu'on veut. C'est pas la politique qui se fait au Conseil fédéral, c'est pas la politique que fait un Bush ou un Saddam Hussein qui peut décider pour la planète entière. Si c'était des politiques qui se faisaient beaucoup plus à la base, beaucoup plus au niveau des associations, peut-être que cette folie de la guerre n'arriverait pas. Donc il faut remettre exactement, refaire, je veux dire, si on veut que les femmes entrent par exemple dans la politique, puisque Nan Shen était une femme politicienne, vous l'êtes aussi, à mon avis, ce n'est pas dire il faut augmenter les femmes dans les institutions politiques, mais c'est de revoir la politique différemment pour tenir compte de là où sont les femmes et redonner de la force, redonner la véritable place à ces lieux politiques. C'est de faire ce que Havel dit de la politique antipolitique. C'est ça qui est la force, c'est pas de faire le cirque de ces parlementaires, de ces sénats, de ces gouvernements, parce que la politique qu'ils font, eux, elle nous conduit à la perte, elle nous conduit à la mort, et on n'en veut pas.
Alors justement, Madame Kessler, vous avez déclaré dans la presse il n'y a pas très longtemps... Une femme apporte une autre dimension dans la gestion des affaires communales, un peu pour prolonger ce que vient nous dire Viviane. Alors vous, par exemple, comment, en tant que femme, vous avez apporté une autre vision de la gestion des affaires communales? Et pratiquement, comment cela s'est réalisé?
Parce que je crois que justement, en ne voulant pas faire de l'égalité une imitation, en vivant pleinement... sa nature de femme, sa sensibilité de femme. La femme a, je crois, des avantages énormes. Là, je rejoins un tout petit peu Nan Shen, parce qu'elle a mené de front beaucoup d'activités. Elle a dû amener à l'âge adolescent et ensuite à l'âge adulte des enfants, avec tout ce que ça demande d'ouverture d'esprit et de compréhension. Parce que en général, la femme est, je dirais, moins autoritaire que peut-être le père qui rentre le soir, ne maîtrise pas tellement cette éducation et a des positions souvent difficiles. Donc la femme a un rôle d'arbitre auquel je tiens beaucoup et qui, je crois, est très important. Donc elle vit automatiquement dans les décisions qu'il faut prendre dans la gestion d'une commune, par exemple. Elle le vit avec sa sensibilité de femme, qui est différente.
Par exemple, concrètement, en quoi vous opposeriez ou vous seriez différente de vos collègues masculins?
Alors écoutez, là il y a aussi, je dirais, une espèce d'inégalité, parce qu'il est évident que nous devons essayer d'obtenir qu'on nous mette aussi ailleurs que dans le social, jusqu'à présent l'environnement. Les messieurs s'y intéressent maintenant parce que ça touche les porte-monnaies et ça devient un désastre. Nous avons fait du pré-combat lorsque ça n'était pas encore, ça ne passait pas encore par des sommes incroyables. Donc là, je dirais qu'il y a une égalité qui n'est pas atteinte. Cet instinct, n'est-ce pas, de nous mettre dans du social. Moi, personnellement, je n'ai pas le social pour pas qu'on dise « oui, elle est pas mal, elle est bien là où elle est ». J'ai accepté d'avoir la restauration des bâtiments, la protection civile, les pompiers, etc., qui sont des domaines très masculins, mais avec disons, ma sensibilité féminine.
Mais c'est ce que vous auriez... Si vous n'aviez pas pensé qu'on vous aurait dit « Ah oui, c'est une femme, elle va dans le social », qu'est-ce que vous auriez choisi?
Moi-même...
par rapport à vos intérêts?
De moi-même, alors j'aurais choisi très évidemment l'environnement en première chose. Mais bon, quand on est dans une commune, il y a de loin, il n'y a pas que ça. Mais ça aurait été ma toute première préoccupation, parce que c'est quand même le monde que l'on va laisser aux générations futures. Et je crois que ça, c'est la chose la plus importante.
Mais vous n'avez pas l'impression que, quand vous dites « je me suis mis dans les bâtiments parce que je voulais leur prouver finalement qu'une femme peut tout faire », vous n'avez pas l'impression que c'est une...
Une abdication, peut-être, ou bien une volonté d'imiter, non, je crois pas.
Une abdication, je ne sais pas comment dire. J'aime bien, et je crois que c'est Rosiska Darcy d'Oliveira qui, dans le débat que vous avez eu, parlait d'émigration, souvent, en termes pour les femmes, d'exil. Les femmes, dans le territoire masculin, elles s'exilent un peu. Alors, est-ce que ce n'est pas un comportement d'exilé, justement, que de manger la nourriture, la nouvelle nourriture du nouveau pays pour faire oublier qu'on vient d'ailleurs.
Ouais, moi je veux juste dire que c'est pas tellement un exil dans le sens où on oublie les implications entre le privé et le politique, et que la plupart du temps les hommes qui font de la politique, enfin pas tous, je vais pas accuser tout le monde, mais c'est parce qu'ils ont des implications très fortes dans des entreprises privées, et que l'implication politique forcément favorise l'adjudication de certains travaux. Il faut pas leur mettre des auréoles et des grands trucs comme ça. Je veux dire, il y a les implications économiques qui sont évidentes. Oui. Moi, je vois de l'extérieur et je le constate tout le temps.
Et là, je dirais que les femmes
sont beaucoup plus libres.
Et moi, je suis très heureuse d'avoir cette liberté. Dans des grands combats où on se heurte à des intérêts financiers, moi, j'étais présidente du référendum contre Palexpo. Je l'ai été, pas parce que je le voulais, par ambition, en me disant « Oh là là, je vais être à l'avant-scène », pas du tout. C'est parce que les messieurs qui m'entouraient ne pouvaient pas se permettre, sur le plan professionnel, de se heurter aux grandes influences de la République, à la finance, etc. Et moi, je me suis rendu compte que, à l'époque, je travaillais pas, n'est-ce pas? J'élevais mes enfants, j'étais une ménagère, comme on dit, et que j'étais tout à fait libre. Et alors, ça, je dois dire, ça m'a permis une envolée du fait que je me suis pas sentie exilée, mais je me suis dit, mais c'est magnifique. Je peux dire dans le fond ce que je peux dire ce que je veux. Ces pauvres là, ils aimeraient bien. Prendre ma place. Hein? Ils m'ont poussé en avant. Après, quand c'était passé, peut-être qu'ils auraient bien aimé que... Mais c'était trop tard. La machine s'était mise en marche. Alors, je crois qu'on a aussi, nous, des avantages. Celui-là m'a paru évident.
Martine, je crois que vous voulez dire quelque chose.
Oui, je voulais enchaîner sur cela, parce que je trouve le débat intéressant de savoir si c'est un exil d'aller, par exemple, dans les bâtiments. Les bâtiments, c'est finalement un bon exemple. Et je crois que, puisque le débat démarrait autour de la question qu'est-ce qu'on peut changer et où est-ce qu'on veut changer les choses, s'il n'y a pas des femmes qui sont d'accord de transgresser leur propre domaine, on n'arrivera jamais à changer, parce que le social, c'est bien joli, mais ça n'est pas un lieu de pouvoir. Et je reste persuadée, quoique le débat soit grand là-dessus, qu'il faut des femmes qui ont une certaine optique, qui ont en tout cas une idée de solidarité féminine dans la tête, dans ces lieux, comme des lieux comme les bâtiments ou par exemple le budget, dans lesquels il y a peu de femmes. Et il faut qu'il y ait des femmes présidentes de la commission du budget, par exemple. Et juste pour continuer là-dessus, sur cette question de valeur féminine et de culture féminine, je dirais qu'il y a... Je suis d'accord avec Viviane sur le fait qu'il y a un monde des hommes et un monde des femmes, dit très schématiquement, et puis qu'il y a également une culture des hommes et une culture des femmes. Mais je suis beaucoup plus réticente sur le mot de valeur. Non seulement je pense qu'il n'y a pas de valeur féminine et masculine, je pense que les valeurs données dans le livre de Gabriel, par exemple, sont un amalgame de choses qui peuvent être partagées aussi bien par les hommes que par les femmes. Notamment la solidarité a jusqu'à présent, jusqu'à nouvel avis, était largement une valeur masculine. Il suffit de penser par exemple au club masculin où s'exerce cette solidarité masculine, et que nous les femmes, nous avons eu toutes les peines du monde à créer, et qui s'est créée notamment dans les mouvements féministes. Sinon, il y a cette solidarité de quotidienneté, de voisinage, mais c'est pas vraiment, je dirais, une solidarité avec un grand S. Le don de soi et le partage, je crois que ce sont des valeurs imposées aux femmes, bien plus que des valeurs aujourd'hui revendiquées, mais je trouve ça dangereux de revendiquer notamment la valeur du don de soi. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut désexualiser ces valeurs, à mon sens.
Alors justement, sur ces valeurs dites féminines, Gabriel Nonchen semble trouver incompatible que le maniement des concepts, l'abstraction, la théorisation, pour elle, ce n'est pas ce ne sont pas des valeurs féminines. Qu'est-ce que vous en pensez, Martine ?
J'en pense pas du tout du bien. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve que on n'a pas le droit d'interdire aux femmes qui aiment la théorie d'en faire. Il y a des femmes qui aiment essayer d'avancer dans un travail scientifique, et on n'a pas le droit, sous prétexte de dire que c'est pas féminin, de leur dire qu'il ne faut pas aller dans cette voie-là. Et je trouve que ça a un autre inconvénient, c'est que ça signifie valoriser l'intuition par rapport à la rationalité. Et je trouve dommage de dire que la rationalité est masculine. Il faut dire que les femmes ont été exclues de la rationalité, et aujourd'hui elles ont le droit de se l'approprier si elles le désirent. On n'est pas obligé d'être qu'intuitive.
Comme les hommes ont été exclus de l'intuition.
Comme les hommes ont été exclus de l'intuition et sont obligés de n'être que rationnels. Je crois qu'on peut vraiment être les deux. De même qu'on est tous bisexuels, masculins et féminins. Mais je trouve qu'on retombe vite dans les stéréotypes enfermants avec le discours
mais,
que tient
mais
Gabriel.
Mais d'autre part, quand tu dis oui, les femmes, elles ont droit à la théorie, bien sûr, mais il y a aussi toute une théorie féministe qui se construit, qui tend à dire que la manière dont on manie les concepts, dont ont été maniés les concepts jusqu'à maintenant, ce n'est pas la manière universelle et la seule manière. La rationalité n'explique pas tout le monde, et c'est pas seulement à travers ce type de rationalité qui dérive du 18e du siècle des Lumières de Descartes qu'on explique le monde. Bien au contraire, je veux dire, les sciences aujourd'hui ont mis complètement en échec les théories de la rationalité pure. Je veux dire, il y a d'autres. Et pour moi, bon là, je veux pas dire, j'ai l'air d'être l'avocate un peu ici de ce que défend Gabriel Lanchen. Moi non plus, j'aime pas le mot valeur. Je l'ai tout de suite dit. C'est plutôt le mot valorisation de c'est autre chose. C'est effectivement la valorisation de ce qu'on est qui me plaît plutôt. Mais par rapport à cette autre manière, il y a des femmes et des hommes aussi qui font maintenant, qui réfléchissent, qui élaborent d'autres types de théories, qui font d'autres types de recherches dans d'autres voies, qui mènent à des résultats dans les sciences, dans la philosophie, dans les lettres, dans l'histoire. Et moi, je m'y retrouve beaucoup dans ce type de recherche, dans ce type d'abstraction-là.
Mais est-ce que c'est
femme,
pas plutôt...
Ce n'est pas nécessairement... Et ce sont des recherches dites féministes, même si ce n'est pas que des femmes qui les mettent en avant.
Mais d'ailleurs, est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question de plutôt, à l'aide de ces moyens, de ces méthodes, qu'est-ce qu'on veut chercher, qu'est-ce qu'on veut obtenir ? Parce que finalement, qu'on attaque un problème par l'intuition, par le rationnel, qu'on soit solidaire, ça dépend avec quoi et pourquoi, je veux dire. Parce que bien sûr que les hommes ont pratiqué la solidarité, mais parfois pour mieux écraser d'autres, etc. On peut utiliser certains concepts très mal, je veux dire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose d'intéressant dans la façon de se questionner sur ces fameuses... valeurs qu'on n'appellera pas féminines, certaines méthodes, certaines approches, mais voir ce qu'on veut en faire. Parce que tu parlais tout à l'heure, Viviane, d'une autre façon d'apprendre les choses, une autre façon de comprendre les choses, de tenir compte de la façon dont les femmes, elles, se situent dans certains endroits qui ne sont pas la façon traditionnelle, par exemple, de faire de la politique. Eh bien, on l'a vu, nous deux, très concrètement, lorsqu'on était à l'Assemblée des citoyens à Prague, les femmes avaient voulu se mettre dans tous les séminaires pour pouvoir poser la question de leur point de vue. Et très vite, on s'est aperçu qu'on ne leur laissait pas poser la question de leur point de vue. On ne donnait pas la parole aux femmes pour leur dire « Mais comment vous envisagez la création d'une société civile ? Quelle sera la part des femmes dans cette société-là » Donc, à un moment donné, on doit aussi se dire « Mais comment allons-nous, comme femmes, arriver à poser dans la société ce que nous voyons, ce que nous voulons ?»
Là, je crois qu'il faudrait, il faut, c'est un lavage de cerveau autant féminin que masculin qu'il s'agit de faire, parce que j'ai l'impression qu'on vit depuis tellement de générations et depuis tellement de centaines et de milliers d'années avec dans le paternalisme et je veux dire je trouve pas mon mot. Une mise en avant de l'homme qui détient tous les pouvoirs dans nos sociétés que il faut. C'est en chacun de nous qu'il faut aller chercher ça. Et je dirais ça pas uniquement du point de vue féminin. Il s'agit de réveiller l'écoute chez l'autre, mais quel qu'il soit. Moi, j'ai plutôt envie de parler d'être humain. Pour essayer d'arriver à écouter les minorités, finalement. Pour l'instant, on fait encore partie des minorités.
Oui.
Ouais. mais il y en a d'autres. Et je ne considère pas. Il y a aussi des minorités parmi les hommes. On parlait des homosexuels tout à l'heure. Ben, c'en est une, par exemple. Moi, je suis dans un milieu où c'est accepté, où ça ne me gêne pas du tout. Je dirais même que ça ne me gênerait pas du tout que mon fils soit homosexuel. Je veux dire, c'est pas une chose qui me paraît. Mais je vois bien que dans des milieux plus normaux, c'est là aussi, c'est le diable sur la muraille. Donc, c'est un réveil des consciences, mais de tout un chacun. Et je dirais que c'est un combat quotidien. Enfin, moi, j'essaye de me battre tous les jours, à mon petit niveau.
Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que quand j'entends parler aussi de valeurs masculines, de valeurs féminines, je fais un bond de 3 mètres. Ça, c'est sûr. Et puis, quand on me parle de culture masculine et de culture féminine, peut-être qu'effectivement, ça existe. Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est perpétuer et puis de se dire qu'il y a une culture masculine et une culture féminine. Parce que je me dis que ça c'est forcément de faire un découpage comme ça, ça induit à certains comportements. Et puis moi, c'est ça surtout qui me gêne.
Mais disons... Le fait que, je ne sais pas si on arrivera peut-être une fois à un immense melting pot où toutes les cultures sont vraiment mêlées et elles auront leur place, pas seulement, parce qu'on peut, bon, il y a les grandes divisions hommes et femmes, et après il y a les divisions de race, de culture, de liens à un pays. Mais malheureusement, ce qu'on nous propose trop maintenant, l'égalité pour moi, c'est cette proposition, c'est effectivement l'exil dans un autre territoire où on doit perdre, comme on demande aux Arabes en France, de devenir des Français, de s'intégrer, de perdre leur religion, leur manière de manger. Disons, c'est tout cela qui est... Disons, moi, je veux bien croire qu'il y aura un immense melting pot, j'espère, mais pour l'instant, je vois que la disparition de certaines cultures.
Ben, disons, moi, ça me fait penser à une chose, c'est que tant qu'on essayera de défendre par le féminisme l'entrée des femmes dans le monde dit masculin, c'est-à-dire le monde politique et économique, et uniquement un mouvement dans ce sens-là, on n'arrivera à rien tant qu'on n'aura pas amené aussi les hommes à entrer dans la sphère dite féminine, de l'éducation des enfants, à prendre conscience, mais qu'est-ce que c'est que d'être dans le quotidien, de perpétuer la vie, d'éduquer ses enfants pour demain. Et là, je crois que c'est par cette interpénétration-là qu'il va y avoir une compréhension par les hommes de ce que sont vraiment les enjeux aujourd'hui d'une nouvelle société, et par les femmes de pouvoir amener leur regard. Je crois que c'est pas possible de dire les femmes peuvent prendre des responsabilités politiques au même titre que les hommes si les hommes sont uniquement dans la sphère politique, si eux commencent pas aussi à entrer dans le quotidien. Je crois que les deux mouvements doivent être en même temps, quoi.
Je trouve qu'amener un regard, c'est déjà très machiste.
Quelle provocation. Pourquoi Catherine, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Moi, j'étais, sans jouer sur les mots, mais je veux dire que les femmes amènent leur regard sur le monde des hommes, non. Non, elles s'amènent en entier, comme les hommes s'amènent en entier dans la sphère éducative ou autre. Mais tu as utilisé amener son regard, comme si elle venait là, jeter un œil de loin, et puis elle repartait après avoir vu. Juste, je m'excuse.
Mais justement, d'ailleurs, à propos de amener, disons pas son regard, mais peut-être sa façon de voir et sa façon de comprendre les choses, j'insiste, comment vous voyez ça, vous? Comment vous voyez que vous arriverez à faire comprendre ce que vous avez envie de défendre? Parce que, par exemple, Gabrielle Nunchen met beaucoup en évidence l'agressivité dont ont souvent fait preuve les femmes pour défendre leurs intérêts. Maintenant, les féministes, elles n'ont fait que hurler et gueuler dans les assemblées. Aujourd'hui, quand on veut être là dans une assemblée politique, on est obligé d'être aussi agressif que les hommes. Et rationnel, agressif, enfin, c'est les mots qu'on sent qu'vraiment elles ne supportent pas et qu'elles ne veulent plus
utiliser.
Rapports
de force aussi.
Les rapports de force, voilà. Est-ce que vraiment vous imaginez qu'on arrivera se faire entendre, faire partager la façon dont on a d'appréhender le monde d'aujourd'hui et de vouloir faire évoluer ce monde sans agressivité, sans rapport de force,
en douceur,
avec amour et...
Moi, je ne suis pas d'accord. Le rapport de force fait partie de la vie. L'agressivité fait partie de la vie. Je la revendique pour moi-même et pour les autres. Et puis, je trouve qu'à la limite, c'est une espèce de sport aussi que d'arriver à... J'adore m'échauffer dans une discussion, par exemple. C'est très mal vu, parce que c'est vrai que les femmes ne doivent pas s'échauffer, elles sont douces et tranquilles. Mais pourquoi pas je veux dire, on voit en ce moment Saddam Hussein parler très calmement en disant des choses horribles. Et je vois la plupart du temps, chez tous les gens qui reprochent par exemple, me reproche mon agressivité dans la discussion, dire des choses épouvantables sur le ton le plus badin du monde, mais on ne s'est pas énervé. Alors, je veux dire, ça ne veut rien dire. Il peut y avoir de l'amour dans l'agressivité. Je veux dire, on peut s'échauffer, on peut être pris à partie très fort et avoir envie de le défendre, ce qui ne veut pas dire qu'on va se cogner sur la figure. Mais si elle ne sort pas de cette manière dans la discussion, alors elle sortira à coup de poing, oui.
Madame Kessler, dans les débats au sein des conseils municipaux, on doit se battre aussi, forcément.
Ah, mais bien sûr, mais je pense que l'agressivité, c'est aussi du tempérament. Moi, je sais qu'on aime bien me faire mousser, et puis quand je suis partie, je ne vois pas pourquoi je ne mousserai pas, pourquoi je ne serai pas agressive. Bon, il faut essayer, mais ça, c'est un don. Hein. C'est pas facile à acquérir. Il faudrait avoir de l'humour, n'est-ce pas? Alors, pour un petit peu envoyer aussi, envoyer les pointes, n'est-ce pas? Connaître, j'ose pas dire on connaît l'ennemi. enfin, on connaît bien un petit peu ses armes et ses façons de faire, et on peut ainsi un petit peu lancer des pointes. Moi, je crois beaucoup à l'humour, et je pense que l'agressivité est aussi une preuve de tempérament. Il faut savoir sortir de ses gonds.
Est-ce que pour devenir maire, vous avez eu l'impression de devoir utiliser les mêmes armes que vos collègues?
Non, pas du tout. Pas du tout. Non, vraiment, mais je dois dire que moi, j'ai très peu senti ce combat parce que probablement, je me sens très, très bien dans ma peau, très convaincue de ce que je faisais. Le chemin s'est ouvert, et peut-être à cause justement d'une certaine agressivité, parce qu'on me dit que parfois, même quand je ne suis pas fâchée, j'ai l'air d'être fâchée, mais en tout cas certainement très passionnée. Donc, j'ai mené ça et je me suis dit, bon, si les autres ont plus de voix, eh bien, tant mieux. Si j'en ai plus, ce qui est arrivé, eh bien, c'est magnifique, c'est formidable. Mais ce que je voulais dire par rapport à ce que disait Natacha, je crois, tout à l'heure, il se passe une chose intéressante. Et alors, on disait les femmes pas dans le social. Mais il se passe une chose intéressante. Il me semble que les hommes vont entrer un peu dans nos vues par le social. On voit aujourd'hui, par exemple, dans les aides ménagères au foyer, on voit des hommes aides ménagères au foyer. Il paraît que certaines personnes âgées, quand elles ont vu un beau matin débarquer un monsieur, était un peu inquiète, mais on prend des habitudes et c'est peut-être là le changement qui va se produire.